Je présente maintenant la conférence de ce soir, notre conférencier qui est Michel Carmona, historien et géographe d'ailleurs, professeur de géographie et d'aménagement à l'Université Paris 4 Sorbonne, pardon, où il est directeur de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne. Il est ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé d'histoire, docteur d'état en géographie et aménagement avec une thèse sur le Grand Paris. Il est spécialiste de Paris, à la fois d'un point de vue historique, architectural et géographique, et ses travaux portent aussi sur l'histoire française et notamment sur la France du XVIIe siècle. Je cite quelques-uns de ses ouvrages, Marie de Médicis, 1981, Richelieu, l'ambition et le pouvoir, 1983, La France de Richelieu, 1984, Les Diables de Loudun, Sorcellerie et politique sous Richelieu, 1988, Eiffel, aux éditions Fayard, en 2002, et pardon, le livre pour lequel nous l'avons invité ce soir, Haussmann, toujours chez Fayard, en l'an 2000. Donc je lui cède la parole pour nous présenter le Paris de Haussmann, et après son exposé, vous pourrez lui poser des questions. Merci.
Merci. Février 1848, Paris se soulève. En trois jours, il a changé de régime. Fini la monarchie que l'on pouvait croire éternelle d'un roi placide qui s'appelait le roi Louis-Philippe, et place à l'aventure de la République, la Deuxième République, qui naît dans l'étonnement. Le peuple de Paris pensait-il que en une pichenette, en quelques heures de barricade, quelques gestes de mauvaise humeur de la part de la garde bourgeoise, le roi s'en irait. Et il se retrouve tout étonné. Ce Paris tout étonné, c'est le Paris de Balzac. 20 ans plus tard à peine, ce Paris de Balzac n'existe pratiquement plus. C'est le Paris de Haussmann qui l'a remplacé. Cette Deuxième République qui s'installe, elle est lyrique, elle est enthousiaste, elle est confrontée à des problèmes gigantesques, problème de la crise économique, le chômage. On a inventé des ateliers, des travaux publics pour occuper les sans-emploi. Et puis, au bout de quelques mois, on juge que ces travaux ne servent à rien, ce qui est vrai, et on décide de les supprimer. Du jour au lendemain, c'est la misère pour tous ceux qui étaient employés dans ces ateliers nationaux. Et pendant le mois de juin, on se fusille à bout portant, 30 000 morts sur le pavé, 30 000 sur le pavé de Paris. Des barricades partout qu'il faut prendre les unes après les autres, des massacres, des représailles, des otages. Ce Paris, c'est un Paris de petites rues, un endroit où les barricades s'élèvent facilement, où de rue en rue on peut se battre, on peut courir. C'est un Paris où on ne circule que très difficilement. C'est un Paris dont les Parisiens sont fiers, mais las, fatigués. Fatigué car il y a de ci, de là, de magnifiques monuments. Mais tout donne une impression d'inachevé et une impression d'entassement fabuleux à l'intérieur d'un espace qui n'est même pas l'espace du Paris que nous connaissons aujourd'hui, mais un Paris correspondant à peu près aux 12 arrondissements du centre, dans notre Paris actuel. La République se dote d'institutions nouvelles et elle décide de créer une constitution qui prévoit l'existence d'une assemblée et en face un président de la République, et pour la première fois dans notre histoire, un président qui sera élu au suffrage universel. Suffrage universel direct, les hommes seuls votent. Pardon mesdames. Mais nous ne refaisons pas l'histoire, nous la constatons. Cette constitution va être adoptée au mois d'octobre 1848, mais voilà que l'histoire que nous abordons aujourd'hui, cette histoire du Paris de Haussmann, ben frappe subrepticement les trois coups du premier acte, avec l'arrivée fin septembre d'un homme entre deux âges, pas très grand, pas très petit, il a juste 40 ans. Il est gris, il a le regard vague, des yeux très très bleus qui semblent transparents, une petite moustache. Et il s'installe dans un hôtel place Vendôme avec un secrétaire. Il loue deux appartements, un pour lui et un qui sera le bureau de son secrétaire. Il est d'allure insignifiante, personne ne se retourne dans la rue pour le regarder. Il porte pourtant un nom immense, il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte et il est le neveu de Napoléon Ier. Il vient d'Angleterre, de Londres où il vit en exil, après deux méchantes tentatives de coup d'État ratées. La dernière qui l'a conduit à faire quelques années de forteresse dans un fort de Picardie, le fort de Ham, d'où il s'est évadé sous la défroque d'un plâtrier nommé Badinguet, le surnom lui collera à la peau par la suite, grâce à Victor Hugo. Et il est parti donc vivre à Londres de, on va dire, de petits boulots. Il a un grand art, paraît-il, pour dessiner des jardins. Donc le voici paysagiste chez quelques membres de la grande noblesse anglaise. Puis il réfléchit, puis il fait des croquis chez lui le soir. Et à quoi s'occupe-t-il le soir ? À dessiner le plan d'un Paris qu'il connaît à peine et qui, il n'en doute pas, va être sa capitale quand il sera revenu au pouvoir. À la fin du mois de septembre, quand il arrive à Paris, il a dans ses bagages quelques valises de livres, de notes. Il a surtout un grand rouleau. Et ce grand rouleau, c'est un plan de Paris avec les nouvelles avenues, les nouveaux boulevards, les nouveaux quais qu'il a l'intention d'entreprendre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de penser que cet homme qui, encore une fois, ne connaît pratiquement pas Paris, qui a vécu toute sa vie à monter des complots, à vivre une existence assez médiocre, en dehors des épisodes les plus rocambulesques de ses ratages. Voilà cet homme qui arrive à Paris. C'est un peu Rastignac. À nous de Paris, je serai empereur et je ferai de Paris la plus belle ville du monde. Les événements vont très très vite. Octobre, donc, la Constitution. Il va être candidat à l'élection qui va se dérouler au mois de décembre 1848. Et le voilà élu avec une majorité écrasante. Il a des millions de voix pour lui. Lamartine, l'homme qui a créé la Deuxième République, en a piteusement 25 000 dans toute la France. Phénomène, ben, il porte le nom. Les gens disent « Poléon, Poléon, nous l'aurons, nous le voulons ». Et il s'installe à l'Élysée, résidence présidentielle s'il en fut. Tout de suite, des nouvelles nominations. Et une première nomination, celle d'un préfet de la Seine, du nom de Berger. Alors, deux mots sur les institutions de Paris à ce moment-là. Paris n'a jamais été libre sous l'Ancien Régime. Paris a goûté à la liberté avec la Révolution, et c'est doté d'une succession de maires, quelques-uns qui ont fini sur l'échafaud. En 1800, Napoléon Ier, qui n'est pas encore Napoléon Ier, qui est Napoléon Bonaparte, premier consul, décide de réorganiser le fonctionnement de Paris. Paris fait partie d'un département qui n'existe plus depuis les années 1960, qui était le département de la Seine. En gros, Paris, plus les Hauts-de-Seine, plus le Val-de-Marne, plus la Seine-Saint-Denis. Je dis en gros parce qu'il y a eu quelques échanges de communes entre l'ancien département de la Seine et l'ancien département de la Seine-et-Oise qui l'entourait comme un anneau et qui correspondait, en gros toujours, aux Yvelines, à l'Essonne et au Val-d'Oise. À la tête de ce département de la Seine, un préfet, comme dans tous les autres départements de France. Et le préfet de la Seine avait une particularité. C'est qu'en même temps qu'il était préfet, donc le tuteur de l'ensemble des communes de ce département, il exerçait aussi les fonctions de maire de Paris. Le maire de Paris, c'est lui. L'exécutif, c'est lui. Pendant quelques mois d'ivresse, au début de la Deuxième République, on a rétabli le maire de Paris. Plus de préfet de la Seine, sauf un préfet qui redevient un vague tuteur, et une succession de maires. Dès que la République s'installe, à partir du mois d'octobre, on rétablit donc le préfet de la Seine, et M. Berger, que Napoléon, le futur Napoléon III, nomme préfet de la Seine, va être à la fois préfet de la Seine, et si je puis dire, le maire de Paris, avec à ses côtés une commission municipale, que l'on prend l'habitude d'appeler souvent conseil municipal, mais cette dénomination exacte, c'est une commission municipale, dont tous les membres sont nommés par le pouvoir. Berger est convoqué par Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui explique son programme. Son programme de président de la République, c'est de procurer du travail. Les ateliers nationaux ont été un échec, et Louis-Napoléon ne répétera pas l'erreur des ateliers nationaux. Il donnera du travail qui sera du travail utile par le lancement de programmes de grands travaux. Il les lance dans la France entière, mais il les lance en particulier à Paris. Que prévoit son programme ? Son programme de grands travaux prévoit d'abord de relier les gares entre elles, car il y a un grand phénomène qui a pris une grande ampleur pendant les années qui ont précédé sous Louis-Philippe, qui a été le début de la réalisation de réseaux de chemin de fer. Ces réseaux de chemin de fer ont tous Paris pour centre, mais ils ne se rejoignent jamais à Paris. car ils ont tous une tête de ligne, une gare, on l'appelle à l'époque des embarcadères, ces gares, une gare ou un embarcadère qui arrive aux limites de Paris. Toutes ces gares sont aux limites de Paris, alors nous allons parler de ces limites. Ces limites, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est les 12 arrondissements centraux, c'est très exactement ce qui s'appelle à l'époque le mur des fermiers généraux, une barrière fiscale, mais c'est quand même un mur. Pourquoi les fermiers généraux ? Du nom de ce groupe de financiers qui, à l'époque de Louis XVI, percevait l'ensemble des droits de douane intérieure, qu'on appelle l'octroi, qui pèsent sur toutes les marchandises qui entrent dans Paris et qui constituent la grande ressource, la très grande ressource de la ville de Paris. Donc il y a la barrière des fermiers généraux et les différentes gares, la gare Saint-Lazare, la première, qui est à la barrière de l'Europe. Elle n'est pas encore tout à fait descendue jusqu'à son emplacement actuel. Elle se glisse. Mais elle a commencé par être créée donc, à l'emplacement où se trouve aujourd'hui le boulevard de Courcelles et le boulevard des Batignolles. Ensuite, il y a la gare du Nord, la gare de l'Est, la gare d'Orléans, la gare d'Austerlitz, la gare Montparnasse. Et toutes ces gares donc, sont en quelque sorte collées aux barrières de Paris, mais ne communiquent pas entre elles. Une fois qu'on arrive à la gare, comment gagne-t-on une autre gare ou comment se rend-on dans le centre de Paris? C'est un vrai casse-tête. Il n'y a pas une liaison continue, il n'y a pas un moyen de s'y retrouver et c'est donc un frein considérable pour la vie des Parisiens, la vie des provinciaux, des étrangers qui viennent se rendre pour quelque raison que ce soit dans Paris. Le programme donc de Napoléon III, c'est de réunir ces différentes gares de deux manières, par des grands boulevards qui vont les réunir les unes aux autres, et d'autre part, en donnant la possibilité aux gens de pouvoir accéder au centre de Paris. Et le dessin qu'il a prévu est d'une grande simplicité. Il faut un grand axe nord-sud et un grand axe est-ouest. Des rues nord-sud, il en existe. Il y a sur la rive droite la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis, et il y a sur la rive gauche la rue Saint-Jacques et la rue Mouffetard. Regardez-les encore aujourd'hui et imaginez quel est le trafic intense qu'elles pouvaient supporter. Donc, il s'agit de créer des voies nouvelles et Louis-Napoléon Bonaparte pense que la meilleure des solutions, il n'est pas technicien, il ne va pas jusqu'au détail, mais il pense que la meilleure des solutions, c'est de créer, non pas de chercher à élargir les voies existantes, mais de créer des voies nouvelles. Bon, allons droit au fait, c'est le boulevard de Strasbourg qui se prolongera plus tard par le boulevard de Sébastopol et continuera sur la rive gauche avec le boulevard Saint-Michel. Comment est-ce qu'on va faire le passage est-ouest? Il y a une amorce de rue qui s'appelle la rue de Rivoli, qui a été commencée précisément dans les années du consulat et poursuivie sous l'Empire. Cette rue de Rivoli, elle part de la place de la Concorde et elle atteint à peine le pavillon de Marsan, qui est le pavillon d'angle donnant sur la rue de Rivoli du palais des Tuileries. Et puis après, il n'y a plus rien. Il faut prendre la rue Saint-Honoré, il faut serpenter, et puis il faut aller rejoindre par mille détours l'aboutissement de la rue Saint-Antoine et la place de la Bastille, qui n'est pas du tout aménagée. Bref, de grandes difficultés pour aller de l'est à l'ouest. Le projet, c'est de poursuivre la rue de Rivoli jusqu'à la Bastille. Sur la rive gauche, Louis-Napoléon Bonaparte a prévu de même de faire une grande voie est-ouest. C'est, dans son esprit, sur son plan, la rue des Écoles, mais nous y reviendrons plus tard. Voilà donc le programme des travaux qui a été donné à Berger. Il y a également autre chose. Notre futur empereur a beaucoup admiré à Londres les parcs et les espaces verts. Et il a décidé de doter la capitale d'un grand bois, le bois de Boulogne. Et voilà donc notre préfet au travail. Question maintenant, comment financer ces travaux? La ville de Paris est riche de son octroi. Mais la ville de Paris a un excédent qui est l'excédent que l'on peut avoir même avec une sage gestion des deniers publics. C'est un excédent qui est variable d'une année à l'autre. L'habitude, c'est d'utiliser l'excédent pour faire des travaux. On commence par dépenser pour toutes les dépenses de fonctionnement et puis ce qui reste, ce que l'on a, eh bien, on l'utilise pour donner quelques coups de pioche. Inutile de vous dire que ça ne donne pas des perspectives très enthousiasmantes. Napoléon III, le futur Napoléon III, a auprès de lui un homme qui a contribué à faire son destin et qui s'appelle Persigny. Il sera fait duc par la suite. C'est en fait un aventurier, mais un aventurier qui a des idées. Et Persigny dit, il faut absolument pouvoir disposer de beaucoup d'argent en utilisant l'emprunt, en empruntant. C'est ce que font déjà les compagnies de chemin de fer. Mais emprunter pour réaliser des chemins de fer, ça se justifie d'une certaine manière, puisqu'il va y avoir des marchandises, des passagers qui vont payer. Et donc, on va avoir des recettes. Imaginez que vous fassiez des emprunts pour réaliser des rues dans Paris, le boulevard de Strasbourg, plus tard le boulevard de Sébastopol ou la rue de Rivoli. Vous ne payez pas pour emprunter ces voies nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en face de l'emprunt? Qu'est-ce qu'il va y avoir en face de l'emprunt, dit Persini? Ben, tout simplement le développement de l'activité. Ce que nous appelons aujourd'hui l'investissement, il l'appelle des dépenses productives. Il dit tout ceci va permettre aux gens d'avoir des idées et de pouvoir les réaliser. Car aujourd'hui, quand un Parisien a une idée, une innovation, une affaire qu'il veut faire, le fait d'être enfermé dans son quartier, de ne pas pouvoir bouger, fait que 9 fois sur 10, il y renonce avant d'avoir donné même le signal du départ. Tandis que là, désormais, il va y avoir de la richesse, et cette richesse, elle va revenir sous forme de taxes dans l'escarcelle de la ville de Paris. C'est cela que Louis-Napoléon Bonaparte et Persigny expliquent à Berger, et Berger est épouvanté. Alors Berger va bien emprunter un petit peu, 20 millions par-ci, 25 millions par-là, mais à la petite semaine. Et on a l'impression que plutôt que d'essayer de faire passer le message de Louis-Napoléon Bonaparte, il agite les cercles parisiens pour leur demander de l'aider à faire pression sur Louis-Napoléon Bonaparte et expliquer que tout ça ne peut pas durer, on ne peut pas emprunter, on va se ruiner. On est toujours dans la mentalité de enrichissez-vous et épargnez le plus possible. Donc l'idée d'utiliser de l'argent, de l'emprunter pour créer du développement et de la richesse, c'est une idée qui ne pénètre pas l'esprit de ce brave monsieur Berger. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte s'accommode vaille que vaille de son préfet de la Seine. Il a aussi d'autres soucis en tête. Hein. Il se préoccupe d'organiser sa montée au pouvoir. En 1851, décembre 1851, coup d'État, il veut pouvoir être rééligible. On ne l'était pas. Hein. Un mandat de 4 ans, puis il fallait laisser passer 4 ans avant de pouvoir se représenter à la présidence de la République. Il veut pouvoir se représenter et l'Assemblée lui refuse la révision constitutionnelle qu'il demande. Alors c'est simple, un petit coup d'État. Et ça résoudra le problème. Et il est largement plébiscité. L'année 1852 est tout entière utilisée par lui et par son entourage à organiser le rétablissement de l'Empire. Décembre 1852, c'est fait, et le rétablissement de l'Empire est approuvé avec, tenez-vous bien, 96,9% des voix. Triomphal. Le voici donc véritablement au fait du pouvoir. Il va pouvoir maintenant s'occuper de nouveau de Paris. Il a demandé dans les premiers jours de 1853 au fidèle Persigny de lui chercher un remplaçant à Berger. Persigny convoque les préfets les plus anciens dans le grade le plus élevé et il les invite à déjeuner, il les fait parler. Et parmi ces préfets les plus anciens dans le grade le plus élevé, il y a le préfet de la Gironde, le préfet de Bordeaux, qui s'appelle Georges Eugène Haussmann. Et l'espace d'un repas, Persigny se dit « ça y est, c'est l'homme qu'il me faut ». Alors, quelques mots rapides sur Georges Eugène Haussmann. Il est né à Paris. Bien qu'il porte un nom d'origine allemande, sa famille est installée depuis 6 générations dans l'Alsace et elle a des origines plus anciennes qui sont saxonnes. Il est luthérien, il fait partie d'une minorité. Il a, si on peut dire, toutes les caractéristiques d'une noblesse d'empire. Alors tout de suite, je vous rassure, on dit le baron Haussmann, il n'a jamais été officiellement baron. Jamais. Mais vous savez, ça faisait bien d'être baron, comte, vous voyez ça dans Offenbach, dans la vie parisienne. Eh bien, ça fonctionnait comme ça. Et donc, un beau jour, Napoléon III lui dit, vous n'avez pas de titre. Bah, c'est-à-dire, non, mais vous n'êtes pas dans la famille quelqu'un qui avait un titre. Oui, j'avais un grand-père qui s'appelait Denzel, qui était baron. Ben, reprenez, ben, ce n'est pas tout à fait régulier, ce n'est pas grave. Baron Haussmann, vous voilà, baron Haussmann. Alors, effectivement, il avait un grand-père qui était d'origine allemande, qui était entré avec enthousiasme dans les armées napoléoniennes, qui a même été gouverneur de Vienne, à la tête des armées françaises. Et puis, il avait un autre grand-père qui avait été conventionnel, qui, s'il avait été à Paris, aurait voté l'exécution de Louis XVI. Ça lui sera reproché au moment de l'arrivée de Louis XVIII, et on lui dira, même si vous n'êtes pas régicide, puisque vous n'étiez pas à Paris pour le vote, vous l'étiez d'intention. Enfin, ça se tassera avec le temps. Et donc, vous voyez que Haussmann a un gisement, si je puis dire, qui est véritablement napoléonien. Sa carrière, quelle est-elle? Son père, qui avait des sentiments bonapartistes, peut-être un peu républicains mélangés, mais tout ceci allait assez bien ensemble en 1830, avait fait le coup de feu sur les barricades de 1830, la révolution d'avant 1848, qui avait chassé Charles X pour mettre à la place Louis-Philippe. Et Georges Eugène Haussmann, par fidélité à l'égard de son père, l'excitation de l'odeur de la poudre, a un peu participé, il portait des plis. Au passage, il a été un peu blessé. Donc du coup, le voici devenu un héros des journées révolutionnaires de 1830. Et ça lui vaut, quelques mois après, une nomination, l'ENA n'existait pas, hein, une nomination comme secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Et donc le voici qui s'en va à Poitiers. Et il commence donc une carrière de sous-préfet. Il sera sous-préfet à Yssingeaux, à Saint-Giron, à Nérac, à Blaye. Il est heureux, mais il trouve qu'il ne va pas vite. Et c'est vrai qu'il ne fait pas une carrière époustouflante. Mais il emmagasine les expériences. Il plante des arbres, il installe des écoles primaires, il fait de la géologie, il s'intéresse aux ressources en eau. Il bâtit des routes, beaucoup, beaucoup de routes. Et puis il assiste, fasciné, au développement des chemins de fer. Il est finalement nommé préfet pour la première fois grâce à Louis-Napoléon Bonaparte en 1849. Alors, il est préfet du Var, et puis après, il devient préfet de Lyon. Et puis après ça, en 1851, au moment du coup d'État de décembre 1851, le voici qui est prié d'aller vite fait, immédiatement, s'installer à Bordeaux pour organiser dans la Gironde le succès du coup d'État. Il ne sera pas peu fier d'ailleurs de dire que si la moyenne nationale au plébiscite de 1851 était de 96,9%, chez lui en Gironde, on a dépassé les 98%. Alors, il n'est pas peu fier non plus, quelques mois plus tard, lorsque dans la campagne pour le rétablissement de l'Empire, Louis-Napoléon Bonaparte passe par Bordeaux et fait de Bordeaux, je dirais un peu le coup d'envoi du rétablissement de l'Empire, avec un discours qu'on appellera par la suite le discours de Bordeaux, où il proclame, parole fameuse et un peu malheureuse, « L'Empire, c'est la paix ». Voilà donc notre Georges Eugène Haussmann, préfet de la Gironde, face à Persigny. Et il ne sait pas quelles sont les intentions de Persigny, mais Persigny, lui, le sait. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire ce que Persigny nous a dit dans ses mémoires. Voici, je le cite. « J'avais devant moi un des types les plus extraordinaires de notre temps. » Il parle de Haussmann. Grand, fort, vigoureux, énergique, en même temps que fin, rusé, d'un esprit fertile en ressources, cet homme audacieux ne craignait pas de se montrer ouvertement ce qu'il était. Avec une complaisance visible pour sa personne, il m'exposait les hauts faits de sa carrière administrative, ne me faisant grâce de rien. Pendant que cette personnalité absorbante s'étalait devant moi avec une sorte de cynisme brutal, je ne pouvais contenir ma vive satisfaction. Là où le gentilhomme de l'esprit le plus élevé, le plus habile, du caractère le plus adroit, le plus noble, échouerait infailliblement, ce vigoureux athlète à l'échine robuste, à l'encolure grossière, plein d'audace et d'habileté, capable d'opposer les expédients aux expédients, les embûches aux embûches, réussira certainement. Je jouissais d'avance à l'idée de jeter cet animal de race féline à grande taille au milieu de la troupe de renards et de loups ameutés contre toutes les aspirations généreuses de l'Empire. Fin juin 1853, Haussmann apprend qu'il est nommé préfet de la Seine et le 29 juin, il est à Paris pour prêter serment. C'est le moment où Napoléon III lui dévoile son programme et l'entraîne dans son cabinet de travail pour lui montrer le plan, c'est le plan de Londres qu'il continue à crayonner, et lui expliquer que s'il s'est débarrassé de M. Berger, un homme très honorable par ailleurs, on le nomme au Conseil d'État, du reste il n'a pas démérité, c'est parce que M. Berger ne voulait pas appliquer les grands moyens que l'empereur attend de lui, et en particulier le retour à l'emprunt. Naturellement, Haussmann dit qu'il est parfaitement d'accord avec l'empereur, ben, il reste à trouver les solutions. Alors il s'enferme pendant 2 jours et 2 nuits en tête à tête, si je puis dire, avec les budgets de la ville de Paris, et là, avec ravissement, il s'aperçoit que la ville de Paris, en fait, est beaucoup, beaucoup plus riche que M. Berger ne le prétendait et qu'il y a donc largement matière à emprunter à tire-larigot, si je puis dire aussi grossièrement, et donc à financer très rapidement les grands travaux voulus par Napoléon III. Il annonce la nouvelle à Napoléon III, qui est plongé dans le même ravissement, et voilà donc Haussmann qui prend en main les commandes à la préfecture de la Seine. Alors, tout de suite, un mot à propos de la façon dont il prend les commandes. Haussmann est un très grand travailleur. C'est un homme qui sait également participer à des bals, à des fêtes. Et vous savez que le Second Empire est riche de festivités de toutes sortes. Mais c'est un gros travailleur. Il ne se couche pas avant d'avoir fini l'examen des dossiers. Et il peut rester jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin pour les annoter et donner des instructions. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, indéniablement, est un animateur. C'est un manager, dirions-nous aujourd'hui. Le personnel qui est en place et qui était le personnel qui avait Berger pour chef, il le rassemble, il le dynamise. Il a le sens également qui lui permet de deviner les capacités inemployées de certains de ses fonctionnaires. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a dans le personnel un architecte. Ce n'est pas du Haussmann, c'est au contraire quelqu'un qui est un peu bourru, un peu engoncé, avec une barbe folle, pas toujours bien habillé. Bref, ce n'est pas un homme public. Mais cet architecte est remarquable et Haussmann se dit, c'est l'homme qu'il me faut pour réaliser le plan de Paris, car figurez-vous qu'il n'y a même pas de plan de Paris. Et il a un grand respect pour les techniciens, pour les ingénieurs, surtout messieurs les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, anciens polytechniciens, et pour les architectes, surtout pour messieurs les architectes, Grand Prix d'Europe. Alors, ce sont des qualités qui sont extrêmement importantes, car lorsque Haussmann arrive, il se trouve dans une situation où Berger a accumulé les bourdes. Alors, quelques-unes. La première, c'est le bois de Boulogne. Le chantier du bois de Boulogne a commencé sous Berger. Vous voyez, Haussmann n'est pas le créateur du bois de Boulogne. Mais Napoléon III avait dessiné, comme à Hyde Park, Londres, son modèle, une rivière qui serpentait. À Hyde Park, il y a la serpentine, donc on aurait eu la serpentine du bois de Boulogne. On dessine la serpentine, et puis ensuite on décide de mettre en eau la serpentine, grande festivité. Mais voilà, grand éclat de rire, et Napoléon III apprécie peu, car la pente est trop forte. Toute l'eau se déverse en bas, il y a un vaste marécage, et en haut, il n'y a plus rien. Haussmann est prié de trouver rapidement le remède. Il le trouve par le moyen simple que nous connaissons, mais Napoléon III ne s'est jamais consolé de ne plus avoir sa serpentine et d'avoir désormais deux lacs, le lac supérieur et le lac inférieur avec une cascade. C'est le seul moyen de rattraper la pente trop forte. C'est sur ces entrefaites que Haussmann décide quand même de fortifier son équipe et de faire venir un ingénieur qui avait travaillé avec lui à Bordeaux, qui s'appelait Adolphe Alphand, qui était républicain, mais après tout, qu'importe. Et cet Adolphe Alphand, ingénieur en chef des ponts et chaussées, bien entendu, devient le grand responsable des jardins de Paris. Alors, il paraît que les autres ingénieurs de la corporation ont beaucoup ri en disant « te voilà jardinier maintenant ». Oui, mais il commence par les jardins. Plus tard, ça sera le grand patron de la voirie parisienne. Et je vais vous dire un petit secret. Après le départ de Haussmann, Alphand sera pendant 20 ans sous la Troisième République le continuateur de Haussmann à la préfecture de la Seine. Alors, ça, c'est l'affaire du bois de Boulogne. Deuxième affaire, un peu dans le même goût, c'est l'affaire du prolongement de la rue de Rivoli. Napoléon III a décidé de prolonger la rue de Rivoli jusqu'à la Bastille. Dans un premier temps, on va jusqu'à la colonnade du Louvre, et puis ensuite on ne sait pas trop. Un projet initial avait prévu, vous voyez, de ne pas continuer la ligne droite à partir de la colonnade, mais de venir se mettre dans l'axe de la colonnade, d'abattre Saint-Germain-l'Auxerrois, qui n'avait aucune valeur architecturale, et de continuer tout droit jusqu'à la place de la Bastille. Haussmann n'était pas encore là, Victor Hugo s'était mobilisé avec des articles sur le thème « Guerre aux démolisseurs », en disant à quoi ça sert une ligne droite, tout le mérite de la colonnade est dans la proportion, on va détruire la proportion. Bref, Napoléon III a hésité beaucoup. C'est seulement quelques jours avant l'arrivée d'Haussmann qu'il a fini par se raviser et décider de continuer la rue de Rivoli selon le tracé que nous lui connaissons. Et quelle était l'erreur de Berger? En dehors de cette erreur psychologique, c'est surtout le fait que l'on n'avait absolument pas fait attention à la pente du terrain. Et donc, arrivé à la hauteur de la colonnade du Louvre et poussant vers l'hôtel de ville, on s'aperçoit que les dénivellations s'accroissent et qu'on est de plus en plus bas par rapport à la hauteur du terrain de l'époque. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Ben, ça donnait qu'arrivé à la tour Saint-Jacques, il y avait 9 mètres de dénivelé. Alors, il a fallu raser tout le quartier. Il a fallu exproprier des centaines et des centaines de maisons pour araser le terrain, pour abaisser le niveau de 9 mètres. Il a fallu reconstruire le pont Notre-Dame. Il a fallu reprendre en sous-œuvre la tour Saint-Jacques. Donc vous imaginez, vous voyez les dégâts. Alors, grâce à la mission confiée à cet architecte qui s'appelle Deschamps, qui ne présentait pas si bien mais qui était capable, donc un plan de Paris, un vrai plan avec le tracé des voies et avec le calcul des hauteurs, ce que l'on appelle le nivellement, va être entrepris et mené rondement par Haussmann, puisqu'en une année, ce plan est terminé et devient l'outil majeur. Alors, ça, c'est sa capacité de manager, je dirais, qui est extrêmement importante. Et une deuxième capacité, qui est la capacité, d'opportunisme. Entendons-nous bien. Ce n'est pas un opportunisme sans échine, mais c'est un opportunisme qui le pousse à essayer de percevoir les tendances et l'air du temps. Je vais vous donner l'exemple avec les Halles centrales. Napoléon III avait commencé la construction de pavillons pour les Halles centrales avant l'arrivée de Haussmann. Et il inaugure les deux premiers pavillons des Halles centrales au début du mois de juin 1853. Haussmann va arriver à la fin du mois. Et là encore, il se sent profondément humilié parce que ces deux pavillons ne sont pas très jolis. Et les gens les appellent tout de suite, la rue de Paris les appelle tout de suite, les forts des Halles, tellement ils sont mastoc. Qui est l'architecte qui les a construits? Un dénommé Victor Baltar, Grand Prix de Rome bien entendu, qui les a construits selon les règles de l'architecture classique, avec des arcades, des volutes et dans le style classique dominant à l'époque. Alors, Napoléon III est furieux et il dit « je vais lancer un concours ». Moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose comme le hall de la gare Saint-Lazare, une verrière, c'est aérien, c'est beau, c'est léger. Et donc voilà, Baltar, profondément humilié, et le débat fait rage. Haussmann pense comme Napoléon III, c'est pas parce que c'est l'empereur, mais il pense comme Napoléon III, et il demande à Napoléon III de lui dire très exactement sa pensée. Et Napoléon III fait un petit croquis en disant, voilà, je veux des parapluies, rien que des parapluies. Eh bien, ce sont ces parapluies qui, donnés par Haussmann à Baltar, vont donner naissance au pavillon Baltar, qui n'était pas le projet initial, et ces fameux pavillons métalliques sur lesquels nous pleurons tellement aujourd'hui. Alors, ça c'est, vous voyez, une de ses qualités. Il est peut-être cynique, il est peut-être balourd, mais c'est un félin, disait Persigny, et il a les qualités du félin. Ensuite, autre grande qualité chez Haussmann, l'autre grande qualité, c'est, je dirais, un certain esprit d'anticipation. C'est extrêmement important, naturellement, de faire les travaux nécessaires, mais quand on fait les travaux nécessaires, il n'est pas mauvais non plus d'essayer de réfléchir à ce qui va permettre peut-être de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Un des exemples, je crois, les plus frappants de cet esprit d'anticipation, c'est la façon dont il réalise les voies nouvelles. Sous Berger, c'est simple, on acquiert des maisons, on exproprie, et puis on fait passer des braves gens avec des pioches, et puis il y a des chariots derrière dans lesquels on met les déblais, puis ensuite on repave la chaussée, on fait quelques trottoirs, même pas tous les jours, et puis on dit voilà, c'est prêt, c'est fini, c'est prêt. Avec Haussmann, c'est différent. Et Haussmann, dès le moment de sa prise de fonction, se dit il y a quelque chose qu'il faudra bien faire. Et ça, ça n'est pas dans le programme de Napoléon III. Il y a quelque chose qu'il faudra bien faire, c'est d'apporter de l'eau à tout le monde. Haussmann, d'ailleurs, provoque l'étonnement chez les gens de l'époque. Figurez-vous que le préfet de la Seine, il prend un bain tous les jours. Ce n'est pas très courant. Et donc, des gens raillent cette mauvaise habitude. Mais ils se disent, ça se généralisera un jour. En tout cas, il faut apporter de l'eau. Et si on apporte de l'eau, il faut également l'évacuer, bien entendu, c'est-à-dire faire des réseaux d'égouts. Et pour cela, il a besoin d'un spécialiste. Et là, de même que je citais Alphand tout à l'heure, ramené de Bordeaux, il y a un autre nom qu'il faut citer, qui est celui d'un autre ingénieur, qui s'appelle Belgrand, que Haussmann avait connu quand il était préfet à Auxerre. Et c'est Belgrand qui va être le grand maître d'œuvre de l'amener d'eau, ces fabuleux travaux qui vont permettre de faire venir l'eau par des aqueducs de 140 km de longueur, les aqueducs de la Vanne et de la Duisse, qui entrent dans Paris par l'étage le plus élevé de l'aqueduc d'Arcueil, et sont ensuite emmagasinés dans plusieurs réservoirs et ensuite distribués dans tout Paris, et qui d'autre part va concevoir le réseau d'égouts, réseau fabuleux pour l'époque, qui est très très en avance sur son temps, qui permet de réaliser sous chaque rue et qui permet donc de desservir chaque immeuble de façon à pouvoir collecter les eaux d'égout. Ce réseau a une caractéristique qui aujourd'hui est un peu un frein, mais on ne peut pas être non plus en avance de plus d'un siècle et demi, il ne faut pas trop demander. Ce réseau est ce qu'on appelle un réseau unitaire, c'est-à-dire qu'il collecte à la fois les eaux usées et puis les eaux pluviales, et aujourd'hui c'est un problème. C'est un problème parce que on a décidé depuis déjà maintenant pas mal de dizaines d'années que le mieux c'était de faire des réseaux séparatifs, mais aller donc refaire l'ensemble du réseau d'égouts parisien pour le rendre séparatif. Bien du plaisir aux techniciens et aux financiers. Quoi qu'il en soit, donc désormais, les rues sont livrées, si je peux dire, en bloc avec la chaussée, avec des trottoirs, avec les caniveaux de chaque côté, avec des égouts et avec des canalisations d'eau. Et on ne s'arrête même pas en chemin. Sur les trottoirs, le long de ces avenues, on plante une rangée de chaque côté, deux, si on peut, davantage s'il y a la place, d'arbres que l'on appelle des arbres d'alignement. Et je disais tout à l'heure que Haussmann était quelquefois un opportuniste. Il y a des moments où, au contraire, il est ferme sur ses convictions. Le voilà, par exemple, qui se dispute et se bâche bec et ongle avec Napoléon III sur la question des ormes. Parce que Napoléon III aime les ormes, mais les ormes commencent déjà à être malades. Et Haussmann, lui, il a découvert les platanes quand il était préfet dans le Var. Et il jure que les platanes, c'est l'un des plus beaux arbres. On transigera finalement avec les marronniers, qui sont, je crois, encore aujourd'hui l'arbre majeur, d'ailleurs, parmi les arbres d'alignement de Paris. Et puis, comme il faut profiter du spectacle de la rue, eh bien, on prévoit des bancs pour le repos du promeneur, et puis quelques éléments de ce que nous appelons aujourd'hui, ça fait plus chic, le mobilier urbain, c'est-à-dire des petites fontaines, les fontaines Wallace, ces colonnes qui vous donnent des programmes, les colonnes Maurice. Et donc tout ceci crée un véritable décor. Allons jusqu'au bout. Ce décor, il comprend également les façades des immeubles qui sont les immeubles que l'on reconstruit le long de la rue. Alors, nous savons tous qu'il y a un style dit haussmannien d'immeuble, avec ces balcons qui courent, toujours selon les mêmes principes, le premier ou le deuxième étage, puis ensuite le quatrième ou le cinquième étage. Et ce style très monumental, très noble, on a l'habitude d'appeler ces maisons les palais de la bourgeoisie. C'est dit quelquefois avec un air un petit peu méprisant. Il ne faut pas être méprisant, parce que c'est le moment où véritablement, si vous voulez, la bourgeoisie, les catégories commerçantes, industrieuses, etc., arrivent véritablement au pouvoir politique, à mettre en adéquation le pouvoir économique et le leur et le pouvoir politique, et bien elles s'affirment. Alors on peut dire, ça n'a peut-être pas la délicatesse d'autres styles, on s'affirme beaucoup et très fort, mais après tout, c'est quelque chose qui, de toute manière, a ses mérites et son intérêt. Et c'est la ville de Paris qui vend les terrains sur lesquels vont être construits les immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas la ville de Paris qui construit ces immeubles. Je ne veux pas être tout à fait absolu. Quand quelquefois, personne ne se précipite pour acheter les terrains. La ville de Paris, elle construit une ou deux maisons à l'angle, et puis elle poursuit le dessin des maisons en mettant des papiers peints pour que la rue ne reste pas comme ça désespérément vide pendant plusieurs mois. Mais après, on trouve toujours des acquéreurs pour ces terrains. Nous allons y revenir dans un instant. Quand on vend le terrain, les architectes de la ville disent aux acquéreurs écoutez, voilà en tout cas quelques règles, quelques principes. Et ces principes, c'est donc ce rythme des balcons, c'est ce rythme des fenêtres. Il faut que les surfaces ouvertes soient rigoureusement égales aux surfaces fermées, aux surfaces pleines. C'est comme ça. Pourquoi pas un tiers, deux tiers? C'est comme ça. C'est les règles édictées par les architectes. Ce bon Haussmann n'y est pour rien. Mais évidemment, il endosse la responsabilité de ce style qui porte son nom. Et autre principe également, vous allez peut-être me dire, mais alors quelle uniformité horrible. Non. Parce que la règle, c'est surtout que les étages et les balcons ne se raccordent pas. On veut avoir une homogénéité d'ensemble, une harmonie d'ensemble, mais pas l'uniformité, comme cela se passe dans certaines rues de Londres. Et ce spectacle de Londres avait frappé Haussmann, qui avait dit « Londres, c'est bien, mais Paris, ça sera mieux, grâce à un style qui aura la régularité, l'uniformité, mais un petit peu de fantaisie dans tout ça. » Alors. Ça, c'est également, voyez-vous, une conception, je dirais que c'est une conception complètement nouvelle. Aujourd'hui, les ingénieurs, les urbanistes de la ville de Paris utilisent, comme les urbanistes de beaucoup d'autres villes françaises et de bien d'autres villes à l'étranger, un concept qui est celui du génie urbain. Un génie, pas avec un grand G. Hein. Et je ne cherche pas à vous faire dire que Haussmann est effectivement l'incarnation du génie urbain. Non, le génie urbain, c'est cette science, on va dire, de l'ingénieur de la ville, qui consiste à faire en même temps la chaussée, les égouts, les arbres, etc. Bref, à faire un ensemble de tous ces équipements, de toutes ces infrastructures, disons-nous aujourd'hui, qui sont nécessaires à la ville. Et cette conception globale, ben, c'est une conception extrêmement moderne. Sens de l'anticipation, donc, disais-je à l'instant. Il y a un autre domaine dans lequel Haussmann va montrer également son sens de l'anticipation. Très rapidement, sans faire une énumération un peu fastidieuse de tous les travaux qu'il lance, que je vous indique tout de suite qu'après avoir réparé les bévues du bois de Boulogne et du prolongement de la rue de Rivoli, Haussmann réalise le prolongement du boulevard de Strasbourg. Seul le boulevard de Strasbourg avait été fait sous Berger. Donc il fait le boulevard de Sébastopol, on arrive jusqu'à la place du Châtelet, qui est complètement redessinée, on perce l'avenue Victoria, on modèle la place de l'Hôtel de Ville, et ensuite, eh bien, on traverse l'île de la Cité. Alors, l'île de la Cité, on la traverse avec le boulevard du Palais, et l'on arrive ainsi jusqu'à la place Saint-Michel. Place Saint-Michel, on a décidé d'épargner la rue Saint-Jacques, sauf par-ci par-là, et de faire à côté, en utilisant des rues existantes ou tout simplement en éventrant des pâtés de maison, donc le boulevard Saint-Michel. Alors, c'est au passage un point que nous allons retrouver quand on va se poser la question des principes de l'architecture qui guide Haussmann. Lorsque vous arrivez place Saint-Michel, le boulevard du Palais n'est pas exactement dans le prolongement. Il y a une différence d'angle. Qu'est-ce qu'on va faire pour masquer cet angle ? La fontaine Saint-Michel. Haussmann intervient sur la rive gauche, en dehors de la fontaine Saint-Michel, avec l'affaire de la rue des Écoles. C'était, vous ai-je dit tout à l'heure, la rue qui devait faire le pendant à la rue de Rivoli sur la rive droite. Mais voilà, il est vrai que Napoléon III ne connaissait pas Paris. Et il ne savait pas qu'il y avait une pente, qu'il y avait la montagne Sainte-Geneviève. Et alors, la rue des Écoles, si vous voulez la faire large, ben vous devez la faire comme un grand talus de chemin de fer, si je puis dire, en creusant la colline et puis en faisant des remblais quand vous arrivez vers la Seine. Et donc Haussmann explique à Napoléon III que ce n'est pas possible et qu'il faut en réalité faire une autre rue plus bas sur du terrain plat à l'emplacement où est le boulevard Saint-Germain. Napoléon III était très têtu et Napoléon III a mis beaucoup de temps avant de se laisser convaincre justement qu'il fallait arrêter la rue des Écoles. Hein. Elle ne va nulle part et ne mène nulle part, si je peux être un peu caricatural. Et en fait, la grande voie rive gauche, c'est le boulevard Saint-Germain qui est véritablement l'apport de Haussmann pour des raisons tout simplement de pratique du terrain. Sur la rive droite, nous le voyons lancer bien d'autres travaux que la rue de Rivoli. Alors, d'abord, le Louvre s'achève. Le Louvre s'achève, c'est-à-dire que l'on finit à la fois l'aménagement de la place du Carrousel et la continuité le long de la rue de Rivoli du Louvre avec le palais des Tuileries qui allait du pavillon de Flore au pavillon de Marsan, entre les deux, entre lesquels il y a maintenant un vide, le vide de l'ancien palais des Tuileries. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant à la place ? Ben, il y avait un quartier de Paris, avec des maisons, avec des vieux hôtels classiques, avec un fouillis de brocanteurs, avec des guet-apens, etc. Et donc tout ceci, ben, c'est l'œuvre de Napoléon III et de Haussmann. À partir de là, on commence à amorcer par les deux bouts l'avenue de l'Opéra. Je dis on commence à l'amorcer parce qu'elle ne sera pas terminée à la chute de Napoléon III, c'est la Troisième République qui la finira. Et à l'autre extrémité, eh bien, il y a l'opéra Garnier qui commence à s'élever, et puis il y a toute la restructuration de ce secteur avec la création d'un boulevard qui ne sera pas terminé à la chute de Napoléon III et qui est le boulevard qui, dès cette époque, se voit doté du nom de Haussmann, nom qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et puis on continue, il y a toute l'organisation à partir de la Madeleine, de la desserte du nord-ouest de Paris, c'est le boulevard Malesherbes. Alors le boulevard Malesherbes, lui aussi il a un problème d'angle, hein, comme à la place Saint-Michel. Et là le terrain était un petit peu plus spacieux, donc au lieu de mettre une fontaine, on a mis une église, c'est Saint-Augustin. Petit détail technique, on aimait beaucoup le pseudo-gothique, ça se voit d'ailleurs. Mais il n'y avait pas de place pour mettre des arcs-boutants. Donc en fait, l'église Saint-Augustin, elle est en fer, mais comme on avait peur de heurter la sensibilité des fidèles, on a habillé le fer avec de la pierre. Ce qui pose les problèmes d'aujourd'hui, c'est que le métal a rouillé, que la pierre a éclaté et que depuis pas mal d'années, vous avez pu assister au spectacle de ces travaux, effectivement, de sauvetage de l'église Saint-Augustin. Et puis, il y a les Champs-Élysées. Il y a les Champs-Élysées, ce que nous appelons l'avenue Foch aujourd'hui, que Haussmann appelait l'avenue de l'impératrice. C'est lui qui a trouvé le nom, petite flatterie qui n'a pas déplu à l'empereur. Et cette... aménagement des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile a donné la physionomie à cet ensemble de rues que nous connaissons et à la place elle-même, puisque c'est véritablement l'œuvre de Haussmann. Oh, il a passé des nuits à calculer les angles pour avoir des symétries, à se disputer avec ses architectes sur la hauteur des palais que l'on allait construire, sur le dessin des grillages, sur le fait de mettre des arbres ou de ne pas mettre des arbres. Et ensuite, également, grande discussion avec les ingénieurs et les architectes sur la largeur de l'avenue Foch. Et c'est lui qui a imposé, à la place des 40 mètres qui étaient prévus au départ, la largeur fabuleuse de 120 mètres, hein, qui était quelque chose de complètement inédit. Mais il avait décidé d'en faire la grande voie d'accès au bois de Boulogne. Tout ceci nous mène aux alentours de 1859. Et là, en 1859, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un deuxième élément, je dirais, dans l'histoire de l'anticipation dont fait preuve Haussmann et véritablement l'accélération de cette réalisation de ce Paris de Haussmann qui remplace le Paris de Balzac. C'est la décision d'étendre les limites de Paris. La ville de Paris était donc à l'intérieur de ces barrières des fermiers généraux, de ce que nous appelons les boulevards extérieurs aujourd'hui. Et il y avait un peu plus loin une deuxième enceinte qui avait été construite entre 1842 et 1845, qui celle-là était une enceinte militaire, des fortifications construites à l'époque d'un ministre de Louis-Philippe qui s'appelait Thiers, Adolphe Thiers. On l'appelait d'ailleurs l'enceinte de Thiers. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des communes. Il y avait Passy, il y avait Auteuil, il y avait Belleville, il y avait Montmartre. Et puis, il y avait des morceaux de communes. Vous aviez Montrouge, qui était coupé en deux. Il y avait une partie à l'intérieur des fortifications et une partie à l'extérieur. Vous aviez Ivry, qui était coupé en deux, etc. Et vous imaginez le casse-tête pour les habitants de ces portions de communes qui avaient la mairie à l'extérieur, les fortifications, dont en principe on fermait les portes. Ce n'était pas très commode. Et donc, il y avait quelques esprits qui, de temps en temps, se disaient « on pourrait peut-être étendre un peu Paris ». Mais ce qui est très curieux, c'est que personne ne disait il faut aller jusqu'à l'enceinte des fortifications. Quelques-uns disaient, il y a Belleville qui atteint déjà 80 000 habitants, on pourrait peut-être prendre Belleville. D'autres disaient, mais quel intérêt de prendre Belleville avec ses 80 000 habitants? Pourquoi est-ce qu'on n'annexe pas plutôt les Ternes où il n'y a quasiment rien? Et ça va donner de l'espace d'extension. Et c'est ainsi qu'en 1859, Haussmann, avec l'accord de Napoléon III, qui s'en va prudemment en Italie faire la guerre, et il laisse Haussmann se débrouiller, et Haussmann va effectivement arriver à vaincre toutes les oppositions, tout le monde était contre. L'Assemblée était contre, le Conseil d'État était contre, la Cour des comptes était contre, les communes qui devaient disparaître étaient contre, bien entendu. Et donc, au forceps, il arrive à faire passer une loi, qui est la loi dite d'annexion des communes suburbaines de Paris, qui porte les limites communales de Paris, intramuros, nous disons toujours intramuros aujourd'hui, bien que les murs aient disparu et soient remplacés peu ou prou par le boulevard périphérique, et donc de porter les limites communales de Paris donc jusqu'à la lisière extérieure des fortifications. C'est le moment où Paris passe de 12 à 20 arrondissements, avec un grave problème, qui va devenir le 13e. Alors, vous savez pourquoi c'est grave? Ce n'est pas à cause de la superstition, c'est parce que... Du temps où il n'y avait que 12 arrondissements, il y avait une expression qui disait se marier à la mairie du 13e pour dire ben voilà un couple qui vit en concubinage. Alors personne ne voulait être le 13e. Et un premier dessin des arrondissements fait tomber le 13e, où ça? À Auteuil et Passy. Inacceptable. Alors, il y a, dans ces endroits bien fréquentés, une place qui s'appelle la place Possoz. Honneur à M. Possoz, c'était le maire à l'époque qui se faisait à Akiri, et qui est venu dire à Haussmann, écoutez, moi je ne peux pas accepter. Haussmann lui a dit, écoutez, je vous donne 48 heures pour trouver une solution. Alors, Possoz a réfléchi, et puis, Eureka, la solution, c'est le dessin des arrondissements en escargot. On part du premier, le centre, hein, le Louvre, la place Vendôme, les Tuileries. Et puis à partir de là, on tourne de manière telle que bah, Auteuil et Passy font partie du 16e, et le 13e est tombé chez les chiffonniers du Petit Ivry, qui n'avait pas un porte-parole aussi talentueux que M. Possoz. À partir du 1er janvier 1860, voilà donc Paris a grandi. Alors je m'empresse de vous dire que dès la fin du mois de décembre précédent, Haussmann avait déjà démoli le mur des fermiers généraux, dont il ne reste plus que quelques vestiges que vous connaissez tous, la rotonde de la Villette, les deux pavillons de la place de la Nation, la rotonde de Chartres en bordure du parc Monceau et les deux pavillons de la place d'Enfer-Rochereau. Voilà tout ce qui reste de l'œuvre d'un grand architecte du XVIIIe siècle qui était Claude-Nicolas Ledoux, qui est l'auteur du mur des fermiers généraux et de ses guérites, qui en sont les seuls vestiges aujourd'hui. À partir du moment où l'espace de Paris est quasiment doublé, Haussmann semble pris d'une frénésie de percement de voies nouvelles. Il organise tout le quartier de Chaillot. Il organise tout le quartier du boulevard de Courcelles. Il multiplie à l'est de Paris également des réalisations, boulevard Voltaire, la future avenue de la République. C'est à lui que l'on doit l'enfoncement du canal Saint-Martin et le fait de l'avoir recouvert avec ce qui est aujourd'hui le boulevard Richard Lenoir, ce qui n'était pas le cas avant son intervention. Tout ceci pour permettre de le franchir avec le boulevard Voltaire de plein pied. Autrement, on ne sait pas comment on aurait pu franchir ce canal. Donc il est pris d'une frénésie de construction et c'est le moment où il devient de plus en plus impopulaire. Je dis de plus en plus impopulaire car il ne l'était pas au début. Il ne l'était pas car la population parisienne était contente de voir enfin ses travaux de salubrité et d'assainissement réalisés. Lorsque l'on annexe ces terrains vagues que sont les espaces extérieurs, ces ténèbres des arrondissements périphériques, là la bourgeoisie parisienne n'est plus du tout d'accord. Car on continue à emprunter. Elle se dit, mais mon Dieu, où va-t-on? Et on emprunte sur 25 ans, 30 ans, 50 ans. On finit par emprunter un total, pendant toute l'administration de Haussmann, de 2 milliards de francs. 2 milliards de francs, pour vous donner une idée, c'est un septième du budget total de la France sur une année. Mais voilà la ville de Paris qui va se trouver endettée. Prenez les derniers emprunts signés en début de 1870 jusqu'à 1920. Est-ce que les dépenses productives se révéleront véritablement productives? Au bout du compte, oui. Mais ça, bien malin qui aurait pu le dire au départ. C'était quand même un pari. Et il fallait avoir le sens du risque, et du risque y compris pour les autres, c'est-à-dire pour les finances de la ville de Paris, en faisant ce pari qui, en définitive, a été gagné, mais aurait pu ne pas l'être. Alors, c'est le moment où l'on voit se déchaîner les accusations de toutes sortes contre Haussmann. Accusations de corruption. En effet, le raisonnement, il est tout simple. Pourquoi est-ce que monsieur le préfet de la Seine est pris de cette frénésie de travaux neufs? Bon, il n'y a qu'une explication, c'est qu'il touche des enveloppes de la part des entrepreneurs. Dans ce domaine, difficile de savoir ce qui a pu se passer ou pas. Moi, je serais assez enclin, je vous dirais, à penser comme Adolphe Alphand, qui avait été le collaborateur de Haussmann, et qui, après la mort de Haussmann, a été amené à poser la question et à dire, écoutez, moi qui ai beaucoup pratiqué cet homme, qui ai connu son orgueil, je considère que ça n'a pas pu se produire parce que c'est un homme qui avait horreur de devoir quelque chose à quelqu'un et d'être tenu. C'est un argument moral, alors ça n'est peut-être qu'un argument moral, mais je crois à sa force. En tout cas, quoi qu'il en soit, le débat peut rester ouvert. Deuxième également accusation, c'est celle du gaspillage des deniers publics. Et c'est ainsi que entre décembre 1867 et mai 1868, un jeune avocat républicain pas très connu se rend tout d'un coup très célèbre en publiant les contes fantastiques d'Haussmann. Hein, ce sont tous les contes fantastiques d'Haussmann. C'est les contes, alors évidemment comme comptable, hein, dans lesquels ce jeune homme, alors il s'appelle Jules Ferry, et il s'est rendu célèbre grâce à ce petit opuscule qui a été réalisé après les fascicules successifs qu'il a publiés dans les journaux. Et ce qu'il dit est très intéressant parce qu'il dit, monsieur le préfet, tant que vous avez réaménagé le vieux Paris, nous avons dit bravo. Vous avez fait disparaître des quartiers épouvantables, vous avez amené de l'eau, des arbres, etc. Nous disons bravo. Vous multipliez les arbres d'alignement, vous multipliez les jardins publics, bravo. Mais alors, du jour où vous commencez à aller dans ces espaces extérieurs où il n'y a rien, on se dit, mais vous êtes devenu fou. Et vous êtes en train de gaspiller les deniers de la ville de Paris. Or, évidemment, quand nous voyons ce qui s'est passé après, on comprend que Osman, ben, il a eu raison. Il a eu peut-être tort d'avoir eu raison, mais il avait raison. Et je voulais dire à ce propos que ses adversaires, donc, qui étaient les républicains opposants à l'Empire sous l'Empire, lui ont rendu hommage par la suite. Alors, un tout petit peu de chronologie. Osman devient très impopulaire à cause de cette politique financière. Il réalise des bois, il réalise le bois de Vincennes, il réalise des parcs, des grands parcs comme les Buttes Chaumont, comme Montsouris, comme le parc Monceau, Luxembourg, on lui en veut d'avoir rogné certaines parties de ces espaces. Donc tout ça ne lui gagne pas les sympathies des opposants de plus en plus nombreux. Il fait adopter par Napoléon III l'idée de réaliser, ça paraît ambitieux pour l'époque, un square, 10 000 mètres carrés. Square, parce qu'on est anglomane toujours, dans chaque arrondissement. Et on réalise ces squares. Le premier a d'ailleurs été celui qui a été dessiné autour de la tour Saint-Jacques. Mais il reste critiquable. Et toute initiative qu'il peut prendre est une initiative qui provoque au contraire davantage de critiques. Il y a comme ça, comme des spirales, si vous voulez, d'impopularité. Ça peut exister dans une vie de grand administrateur et d'homme politique, nous le savons aussi. Alors, il devient tellement impopulaire que lorsque Napoléon III décide, à la fin de l'année 1869, de donner un tour nouveau à son régime et de passer à ce que l'on a appelé à cette époque l'Empire libéral, en faisant appel à un républicain rallié qui s'appelait Émile Ollivier, mais Émile Ollivier était un ennemi intime de Haussmann, l'Empire libéral suppose le sacrifice de Haussmann. Et de toute façon, Émile Ollivier en a fait une condition. Alors Haussmann dit, moi je ne veux pas démissionner, je veux qu'on me révoque, puisque j'ai cessé de plaire, qu'on me chasse. Et finalement, Napoléon III, le 5 janvier 1870, le révoque. Haussmann n'est donc plus l'homme du Paris de Haussmann. Il va vivre dans la retraite jusqu'en 1891. Alors, ça ne va pas l'empêcher de donner des conseils un peu partout. On l'appelle à Rome, on l'appelle à Istanbul pour lui demander des conseils. On appelle ses collaborateurs un petit peu partout dans le monde. Bon, je crois que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le Paris haussmannien est immensément scruté, étudié, visité, et un peu partout dans le monde, on demande à des collaborateurs de Haussmann de venir pour une mission ou même de venir s'installer. Et lui-même trouvera le moyen de se faire élire député bonapartiste en Corse, il faut le faire. Et contre, en plus, je vous le donne en mille, contre un cousin de Louis-Napoléon Bonaparte qui s'appelait le prince Jérôme et qui était républicain. Alors, il vit jusqu'en janvier 1891. Donc, il survit de 20 ans à son éviction. Alors, il a le temps de se trouver confronté à un problème, mais d'autres conférences abordent ce problème, qui est le problème de la poursuite de l'extension de Paris. Car bien sûr, les arrondissements périphériques, ils ne sont pas pleins lorsque Haussmann s'en va. Mais malgré tout, ils se remplissent. Et Haussmann prévoit déjà que Paris, une fois qu'il sera plein, contiendra 3 millions d'habitants. Un chiffre qui a été atteint avant et ensuite, juste après la Deuxième Guerre mondiale. 3 millions d'habitants et que la croissance poursuivra après. Et il se dit comment l'organiser. Alors, il voit bien que l'on ne va plus annexer des communes. C'est fini, c'est plus l'époque. Hein. Ça pouvait se faire sous Napoléon III. C'est plus la mode une fois que la République est rétablie. Et ça, il le sait très, très bien. Alors, il a une idée qui est de dire qu'il faudrait faire quelque chose qui soit une sorte d'agglomération de Paris sous la tutelle du préfet de la Seine. Il n'a pas été préfet pour rien. Et le préfet de la Seine, le département de la Seine, devrait devenir le département de l'agglomération parisienne. Et si un jour l'agglomération parisienne dépasse les limites du département de la Seine, eh bien il faudra grignoter quelques communes sur la Seine-et-Oise. Je trouve que c'est assez étonnant comme conception, et c'est avec des formes complètement différentes ce qui s'est passé au moment du découpage des années 1960. Quoi qu'il en soit, ça c'est donc les vues d'anticipation encore qu'il a sur le problème de l'agglomération et le problème de la gestion de l'agglomération. Et puis, Haussmann a également autre chose, si vous voulez, qui l'intéresse énormément, qui est la querelle autour de l'architecture et de l'esthétique architecturale des travaux qu'il a fait. Pendant de nombreuses années, personne ne s'est posé de questions. Il a pu, à la fin des années 1860, rasé à peu près les trois quarts de l'île de la Cité, sans que personne proteste. Faire un grand parvis, mettre la préfecture de police, tout le monde était d'accord. Il y avait même des gens qui voulaient que l'on rase tout, y compris la place Dauphine, pour faire une grande cité administrative dans l'île de la Cité. Ça aurait eu quand même un peu plus de chic. Bon, alors, dans les années 1880, on commence quand même à mettre en cause ces idées et à dire, voilà, la protection du monument historique isolé, elle ne suffit plus. Il faut protéger le monument et ce qui l'entoure. Et Haussmann, à ce moment-là, commence à se défendre et dit, mais moi, je n'ai éventré que des quartiers insalubres. J'ai gardé tout ce que j'ai pu. J'ai même acheté l'hôtel Carnavalet, qui était en ruine, pour le faire réhabiliter, le sauver, et en faire le lieu de l'histoire de la ville de Paris. Et je n'ai démoli aucun aménagement majeur, mais il fallait bien que les routes passent. Et les routes, dans la tradition française, elles sont droites. Voilà. Alors là, on se trouve avec un problème, je dirais que c'est presque un problème philosophique ou idéologique. Pourquoi est-ce que chez nous, les rues doivent être droites? Alors, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution, depuis les plans de la Révolution, puis du Premier Empire, il faut toujours la rectitude, il faut l'alignement, la courbe n'est pas de chez nous. Alors, le reprocher à Haussmann, ben, je trouve que c'est un peu vain, si vous voulez, bon, chacun est de son époque, même si j'ai souligné qu'il avait aussi eu de l'esprit d'anticipation, bon, enfin, il ne faut pas non plus trop lui demander. Et pour conclure, moi, je dirais que la meilleure conclusion, c'est encore l'hommage que lui ont rendu ses adversaires de la veille, les républicains arrivés au pouvoir. Et en particulier, l'un d'entre eux, l'un des plus grands, qui s'appelle Jules Simon. Jules Simon, en 1882, écrit ceci. « Peu nous importe aujourd'hui que les contes de M. Haussmann aient été fantastiques. Il avait entrepris de faire de Paris une ville magnifique et il y a complètement réussi. » Son œuvre était au moins aussi fantastique que ses contes. Nous ne souhaitons qu'une chose à présent, c'est qu'on achève par la liberté ce qui a été commencé par le despotisme. Voilà, quand Haussmann est parti, environ un sixième de la ville a été rebâti en l'espace de 16 ans et demi. Quand il est arrivé en fonction, les rues de Paris représentaient, tout cumulé, 10% de la superficie de la ville. Quand il part, 20%, on circule mieux. En 1855, il a contraint les 17 compagnies qui géraient des omnibus, ancêtres de nos autobus actuels, à fusionner pour créer la Compagnie Générale des Omnibus avec des grands axes qui traversent Paris de part en part et des correspondances et la possibilité de faire deux trajets pour le prix d'un seul ticket. Il s'est donc préoccupé, voyez-vous, de gérer et pas seulement de construire. Et je crois que le fait que la Troisième République, au-delà de l'hommage de Jules Simon, qui est très remarquable, ait continué les travaux prévus par Haussmann, que la Troisième République ait décidé, malgré Victor Hugo, qui se serait bien voulu donner son nom au boulevard Haussmann, mais on lui a donné l'avenue qui porte son nom finalement, la République n'a pas voulu débaptiser le boulevard Haussmann. Et la République l'a continué. De même que c'est la République qui a terminé le boulevard Saint-Germain, qui a terminé le boulevard Raspail. On ne va pas faire la liste de ses travaux. Bref, jusque dans les années 1930, on a continué à exécuter des projets qui étaient des projets qui avaient été prévus sous Haussmann. J'ai tendance à dire que c'est cet hommage rendu par l'histoire qui représente le mieux la grandeur de l'œuvre, même si naturellement elle a des faiblesses. Même si l'homme avait ses faiblesses, avait ses petitesses, bien entendu, qui n'en a pas? Et s'il y a bien des choses que nous pourrions reprocher aujourd'hui à cette vaste entreprise, je crois encore une fois qu'elle reste un des grands moments de la constitution, de la structure de la ville de Paris, d'une certaine façon de concevoir Paris également et d'un certain paysage parisien qui constitue l'une des valeurs toujours vivantes de la ville de Paris. Je vous remercie.
Je voudrais savoir comment étaient faits les appels d'offres, quelles étaient les entreprises. Est-ce qu'il y avait dans Paris ou les environs assez de maçons, de plombiers, d'ardoisiers et tout, en fait?
Merci beaucoup. C'est une question de fond. Il y avait des entreprises qui existaient, qui n'étaient pas très puissantes et pas très nombreuses. Alors je dis pas très puissantes parce qu'il y avait effectivement des appels d'offres et Haussmann aurait bien voulu mettre à l'appel d'offres des tronçons extrêmement étendus de voies. Mais cela dépassait souvent les capacités des entreprises. Alors il a cherché à pousser les entreprises à s'associer entre elles, mais n'aimait pas beaucoup. Et donc, surtout au début, il a été obligé de fractionner ses appels d'offres, et c'était un petit peu toujours les mêmes entrepreneurs que l'on voyait arriver. On peut dire jusque vers 1860. Il y avait beaucoup d'admiration à l'égard des travaux de Haussmann, mais je dirais un certain scepticisme chez les banquiers, et surtout les banquiers traditionnels, ceux qui tenaient le haut du pavé, qui étaient les Rothschild. Or, il fallait l'appui des banques pour financer les entrepreneurs, et il fallait l'appui des banques également pour financer les constructions qui étaient en bordure des voies nouvelles à créer. Et souvent, c'était les entrepreneurs eux-mêmes qui rachetaient des terrains. Parfois, c'était les propriétaires précédents qui décidaient de réinvestir, mais souvent, c'était les entrepreneurs, et ils avaient besoin d'emprunter. Et en fait, Haussmann a été, si je puis dire, sauvé par les frères Pereire. Les frères Pereire, grands financiers, banquiers, qui avaient commencé leur carrière au service des Rothschild et qui ont créé, on peut dire, la banque d'épargne moderne, la banque également un peu aventureuse, mais en l'occurrence, ils ont considérablement aidé Haussmann et Napoléon III. Alors, c'est eux qui ont construit les principaux immeubles qui se trouvaient dans la partie cruciale en bordure de la rue de Rivoli, qui est le Grand Hôtel du Louvre, ce qui était les magasins du Louvre, transformés en bureaux par la suite. C'est un espace qui restait désespérément vide. Haussmann a réussi à vendre le terrain très très cher aux Pereire, qui sont engagés à construire les bâtiments très très vite, et ils finançaient donc les entrepreneurs. Les Pereire ont également construit tout l'ensemble de la place de l'Opéra. Pas l'opéra lui-même, mais tout ce qu'il y a autour, c'est les Pereire. Les Pereire ont construit des milliers de logements dans la plaine Monceau, en bordure du boulevard de Courcelles, près du parc Monceau, etc. Bon, ils ont fini par connaître un sort triste à la fin des années 1860, puisqu'ils ont fait faillite. Entre-temps, les Rothschild et les autres s'étaient dit, puisque les Pereire gagnent de l'argent, il n'y a pas de raison pour que nous n'en fassions pas autant. Et d'autres banques sont ainsi venues prendre le relais. C'est une époque de grande création bancaire. Alors, ça fait que dans la décennie, on va dire 1860 à 1870, là, ça a été beaucoup plus facile et il y a eu des appels d'offres beaucoup, beaucoup plus importants qui ont été attribués. Un mot alors, les ouvriers. C'était extrêmement facile de trouver des ouvriers. En plus, ils affluaient de la France entière, de la Creuse, du Cantal, etc., mais également de toutes sortes de régions. Et ce n'était pas la main-d'œuvre qui manquait, mais c'était une volonté politique de Napoléon III de ne pas avoir quand même trop d'ouvriers en même temps dans Paris. Et il avait, si on peut dire, trop d'ouvriers du bâtiment en tout cas, mais il avait donc fixé la barre aux alentours de 40 000, 45 000 en disant « bon, ça suffit ». Et c'était le calcul qui était basé sur la productivité de l'ouvrier qui déterminait le volume et le rythme des travaux.
Alors ma question est la suivante. En plus de tout ce que vous avez dit sur Haussmann, ce qu'il a créé, c'est qu'on peut se repérer. Pratiquement toutes les habitations sont datées et signées par l'architecte. Alors avant Haussmann, on peut me contredire, on trouve très très peu ou pratiquement pas d'habitations qui sont datées. Alors ça c'est poursuivi avec le style Art Nouveau, hein, avec Guimard, la Virotte, on voit bien les dates. L'art déco a continué. Et puis alors après la guerre, on voit très 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 peu actuellement de logements d'habitations qui sont datés et signés de l'architecte. Voilà.
Je vous remercie beaucoup. Alors, d'abord, j'espère que je ne me suis pas contredit d'une conférence à l'autre. La question de la signature, oui, merci de le souligner, parce que cela va avec cet esprit de le palais de la bourgeoisie. On est fiers des maisons que l'on construit. On est fier des maisons que l'on construit. Bon, les propriétaires sont contents de leur investissement, mais l'architecte, l'entrepreneur sont fiers de cette réalisation et ils n'hésitent pas à le signer et à mettre bien en exergue justement leur nom et la date. Je crois que c'est quelque chose qui est un phénomène de culture, si vous voulez, c'est qu'il y a à ce moment-là un goût pour un certain art de bâtir que l'on assume pleinement et dans lequel on considère que socialement on s'exprime, on a donné la plénitude de ses moyens. Je crois que c'est tout à fait révélateur de cette espèce d'orgueil, si vous voulez, de ce style de maison, d'habitation qui se trouve en effet exprimé par cette règle de la signature.
Et j'ai entendu dire que le cinquième étage était depuis Haussmann l'étage noble et qu'il était le seul à avoir un balcon. Est-ce vrai?
Alors, il y a deux périodes dans la réglementation. Non, vous avez raison. Il y a deux périodes dans la réglementation. Au début des travaux de Haussmann, il y a en fait quatre étages. Enfin, il y a le rez-de-chaussée, il y a un entresol. Souvent, l'entresol porte le nom ou pas de premier étage. Et puis ensuite, au-dessus de l'entresol, il y a ce que vous pouvez appeler le premier ou le deuxième étage, comme vous voulez, qui porte un balcon continu, puis un troisième étage, puis un quatrième étage qui a un balcon continu, et ensuite les combles. Et Haussmann va autoriser une augmentation de la hauteur des immeubles en la portant aux alentours de 24 mètres, alors que précédemment, elle était de 18 mètres. Pas rentrer dans les centimètres, parce qu'en fait, c'est des réglementations qui remontent à l'Ancien Régime et qui précèdent l'arrivée du système métrique. Alors, quand Haussmann est là, cette fois, nous avons le système métrique, et Haussmann permet aux maisons de monter. Pour une raison toute simple, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la surface des voies augmente, elle double. Pour ne pas chasser des habitants de la ville, il faut bien trouver des mètres carrés supplémentaires. Et ceux qu'on ne trouve pas horizontalement, malgré les arrondissements périphériques, on les trouve verticalement, donc on permet à la hauteur des maisons de monter. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus le quatrième, mais c'est effectivement le cinquième étage qui devient l'étage le plus élevé sous les combles. Alors, quel est l'argument que l'on fait valoir pour dire ce cinquième étage, c'est un bel étage, c'est pour ça qu'il a ce balcon? C'est qu'on respire un air plus pur. Alors, on n'emploie pas le terme de pollution, mais on dit déjà dans les étages élevés, et lorsqu'on arrive ainsi à l'étage droit vertical avant les combles plus élevés, c'est là que l'on respire l'air le plus pur. Alors, c'est un peu la limite quand même de la grimpette aussi, parce que la plupart de ces immeubles sont construits sans ascenseur. L'ascenseur est inventé à cette époque, mais ça reste un privilège de riches. Le premier ascenseur va être commandé en 1855 par Napoléon III, pour le petit château de Saint-Cloud. Et puis après, Rothschild en fait autant. Mais il va falloir du temps avant que les ascenseurs, si l'on peut dire, se démocratisent. Et le balcon, à ce moment-là, apparaît un peu comme une contrepartie, si vous voulez. On grimpe, on se fatigue un peu dans l'escalier, mais en revanche, on a le balcon et le spectacle de la rue. Car le balcon est véritablement utilisé, pas seulement comme un élément de décor, mais qu'un élément que l'on utilise lorsqu'on est chez soi, lorsqu'on a des amis, pour regarder le spectacle de la rue et regarder la peinture de l'époque. Combien de tableaux qui nous montrent des gens au balcon en train de regarder la rue.
Vous avez peut-être un petit peu répondu partiellement à la question. Toute cette partie d'expropriation, comment est-ce que ça a été réglé puisqu'on a détruit des quartiers pauvres et ce n'était peut-être pas des gens qui pouvaient se réinstaller au même endroit dans ces nouveaux bâtiments beaucoup plus chers, j'imagine?
Alors, d'abord, un premier mot sur l'expropriation, c'est que la règle, ça avait été, il faut payer le plus cher et le plus vite possible. De façon à ne pas créer de murmures, vous voyez, de la part des propriétaires et des gens qui étaient titulaires d'un bail, car cela aussi était indemnisé lorsqu'ils étaient obligés de partir. Vous avez même des dessins, il y a un dessin très drôle, une caricature très drôle de l'époque, dans lequel on voit deux messieurs se rencontrer et l'un d'eux est somptueusement vêtu avec un chapeau haute forme, avec un magnifique habit, et l'autre est un peu pauvrement vêtu. Et celui qui est pauvrement vêtu dit à l'autre: mais mon cher, mais comme vous voilà mis, c'est extraordinaire, vous n'étiez pas comme ça il y a 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre, fumant son cigare, lui dit: voyez-vous, j'ai été exproprié. Alors, lorsque l'on n'avait pas de bail, on n'était pas indemnisé, il fallait se débrouiller. Alors, il y a d'ailleurs une industrie qui s'est créée, qui était la confection de faux contrats de bail. Alors, ça a exaspéré Haussmann, mais enfin, on préférait ne pas créer d'histoire. Et donc, même si on faisait des remarques acides, parce que souvent, c'était les mêmes documents qui revenaient pour des dizaines d'immeubles, on les faisait en série. On indemnisait les gens. Mais c'est vrai que bon nombre de locataires, et notamment d'occupants pauvres, n'ont pas retrouvé à se loger dans Paris. Alors, entendons-nous, il y a toujours eu un nombre de logements excédentaires par rapport aux besoins, de logements vacants excédentaires. Mais même les logements qui étaient construits dans des arrondissements périphériques et qui étaient censés loger la population ouvrière, c'était des logements qui étaient encore trop chers ou considérés trop chers, en tout cas par les ouvriers, qui à partir du moment où ils quittaient le centre, préféraient aller carrément s'installer à l'extérieur, de l'autre côté des fortifications. Alors, il y a même eu des plaintes pendant de nombreuses années de propriétaires qui ont dit « nous avons été abusés par la propagande du préfet Haussmann », qui nous a dit « construisez des logements, il y a des centaines de milliers de gens qui ont besoin d'être logés », ce qui était vrai. Et regardez les immeubles qu'on a faits vers la rue du Danube, la rue de Crimée, etc., ils sont vides. Eh oui, parce qu'ils étaient moins chers naturellement que ceux du boulevard de Courcelles, mais ils étaient encore jugés trop chers par la population pauvre qui s'en allait. Car il ne faut pas oublier qu'un des modes de logement dans tous ces immeubles du centre, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le mode de logement des marchands de sommeil. On les appelait des garnis. Le mot est plus littéraire, vous le trouvez chez Balzac, mais c'était exactement la même chose. Donc, des gens qui ne payaient pas grand-chose pour une paillasse qu'on louait souvent pour quelques heures, parce que, quelquefois, la location faisait les 3-8, si je peux dire. Ils préféraient s'en aller de l'autre côté. Alors, Haussmann le voyait, ce phénomène, et c'est pour ça qu'il se préoccupait déjà de la croissance de l'agglomération au-delà des limites. Et lui disait, vis-à-vis de ses ouvriers qui décident de s'installer en dehors, parce que la vie est globalement moins chère, car on est en dehors des limites de l'octroi parisien. Moi, ce que je fais, c'est leur permettre de venir au travail en faisant que mes lignes de la Compagnie Générale des Omnibus aillent jusqu'à chacune des portes de Paris et permettent de traverser Paris, un exploit quand même, 25 minutes pour aller de la porte de Bercy à la porte Maillot. On peut y arriver encore aujourd'hui, mais ça dépend des heures. Donc, c'était son raisonnement en disant « on m'accuse de déporter la population pauvre ». On utilisait déjà ce nom de « transporter les pauvres ». Moi, je dis que c'est un libre choix de leur part, ils font un choix de vie. Je n'ai pas cherché à le favoriser, mais il est comme ça et j'en tiens compte.
Oui, l'une des raisons qui est souvent invoquée pour expliquer les travaux d'Haussmann, enfin, c'est ce que disent les livres d'histoire, souvent c'est d'empêcher ou voire de limiter en fait, les insurrections et les soulèvements. Vous avez parlé de 1830, de 48. Quel est finalement l'impact de la nouvelle configuration des travaux d'Haussmann sur les soulèvements futurs? Enfin, Haussmann s'en va en 69 et deux ans après, il y a la Commune. Ouais. Donc, est-ce que ça vraiment, est-ce que l'objectif, on peut dire, a été atteint
Oui, oui, si. Vous dites très justement que la Commune a eu lieu, donc les travaux de Haussmann n'ont pas empêché la Commune. Non, d'abord un premier point. Je crois qu'on peut dire que les travaux de Haussmann voulu par Napoléon III, n'ont pas été uniquement dictés par le souci de l'ordre, mais le souci de l'ordre a été perpétuellement présent. Et on a plein d'écrits, de déclarations de Haussmann lui-même, de Napoléon III, des contemporains là-dessus. Il ne s'en cachait pas en disant, on veut éviter le retour, parce que vous dites 1830-1848, mais le règne de Louis-Philippe a été fertile en barricades, en émeutes, sans arrêt. Il n'y a pas eu une année qui n'a pas vu plusieurs barricades sanglantes. Donc c'est quelque chose qui allait avec le fait de faciliter la circulation. En disant, on facilite la circulation, mais en même temps, on permet, le cas échéant, de décourager la construction de barricades. Bon, ceci, c'est donc une préoccupation qui a été tout à fait présente. Alors, à part ça, dire... C'est quelque chose qui décourage, rend plus facile ou plus difficile les soulèvements. Écoutez, les techniques et du soulèvement et les techniques de l'ordre évoluent. Vous savez, beaucoup plus tard, après la Commune, les élus parisiens, les représentants de Paris au Conseil municipal de Paris vont mener, une guerre de harcèlement contre l'État pendant près de 30 ans. Pour empêcher que le métro, qui apparaît indispensable, se réalise avec le gabarit des trains de chemin de fer de l'extérieur. Ils ont le souvenir de la reprise de Paris en une semaine par les forces des Versaillais. Et toutes catégories confondues, ils disent « mais nous ne voulons pas que la province puisse prendre le contrôle de Paris en une heure ». Et donc, ils vont y réussir, puisque vous savez que le métro, dont le premier tronçon va être finalement mis en service en 1900, a un gabarit de tunnel, une taille de tunnel qui ne permet pas à des trains de l'extérieur de rentrer. On l'appelle le petit gabarit. En plus, il y a même un mode d'alimentation qui est différent, ce qui amène à devoir faire le RER, des exploits techniques, etc. Parce que ça a été, vous voyez, une guerre de retardement ô combien efficace. C'est l'État qui a mis les pouces finalement et qui, pour que le métro puisse enfin se faire, a accepté la condition du petit gabarit. Voilà, comme quoi finalement les préoccupations d'ordre, on les trouve un peu partout, même là où on ne s'attendrait pas aujourd'hui à les déceler.
Michel Carmona, merci.